Comment est distribuée l'énergie électrique en Indre-et-Loire? Par le réseau d'infrastructures EDF, me répondrez-vous? Eh bien non, ce n'est pas si simple. Dans le département, les réseaux de distribution appartiennent aux collectivités locales, dont la gestion est déléguée à Enedis, filiale d'EDF. Et le SIEL, S-I-E-I-L, le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, développe et renforce les réseaux de distribution publique d'électricité de 271 communes du département, à l'exception de Tours. Il gère les réseaux de gaz et d'éclairage public de certaines communes adhérentes. À l'occasion de ses 88 ans, le 10 septembre 2025, le SIEL organise un événement à Tours et invite la glaciologue Heidi Sevestre pour une conférence et quelques journalistes. Le SIEL souhaite, je cite, « alerter ses partenaires sur l'urgence climatique ». À cette occasion, je rencontre Benjamin Battu, adjoint au maire de la commune de Homme, Jean-Luc Dupont, maire Les Républicains de Chinon, entrepreneur dans la filière bois et président du SIEL, ainsi que Heidi Sevestre, glaciologue.
Les chevaliers du ciel, dans un bruit de tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, mauvaise tête mais gentil garçon. Ils ne savent ni le bien ni le mal, car ils ne pensent qu'à leur idéal.
Bonjour.
Oui, bonjour. Donc, je suis Benjamin Battu, adjoint à la mairie de Homme et délégué auprès du SIEL. Et donc, je suis juste là pour l'anniversaire du SIEL et assister aux conférences qui sont proposées aujourd'hui, qui sont très intéressantes.
Ça consiste en quoi d'être délégué auprès du SIEL?
Ça consiste à, comment dire, à assister aux assemblées générales, aux comités syndicaux, à voter donc les décisions qui sont prises au niveau budgétaire, au niveau politique. Être en relation privilégiée avec les agents du SIEL dans le cadre de travaux faits sur notre commune.
Et alors, quelles idées vous allez ramener à Homme de cette journée?
Conforter le sentiment qu'il faut agir pour contrer le changement climatique et pour s'adapter et changer nos modes de consommation d'énergie pour abaisser notre empreinte carbone.
Et une action phare qui est menée à Homme dans ce cadre-là?
Alors à Homme, la municipalité n'a pas d'action phare en elle-même, mais comme nous avons un foncier qui était, qui était principalement des carrières, en fait on a des terrains qui ne sont pas cultivables, qui ne sont pas exploitables pour l'agriculture et où s'installent des entreprises privées pour créer des champs de panneaux photovoltaïques. Donc on a trois champs de panneaux photovoltaïques en cours de création sur notre commune.
Merci.
Avec plaisir.
Les chevaliers du ciel, dans un bruit de tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière.
Bonjour monsieur.
Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Dupont, je suis maire de Chinon, président du syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire.
Alors, qu'est-ce que le SIEL?
Le SIEL, c'est un grand syndicat de communes créé en 1937 et en fin de compte qui a été bâti pour structurer les réseaux de distribution d'énergie électrique à l'échelle du département. Contrairement à ce que tout le monde croit, les réseaux de distribution d'électricité n'appartiennent pas à EDF, mais ils appartiennent aux collectivités locales qui sont propriétaires de ces réseaux et donc qui ont délégué la gestion et l'exploitation de ces réseaux par le biais d'un contrat de concession à Enedis, une filiale d'EDF qui les entretient et qui transmet et assure la distribution d'énergie à l'échelle du territoire départemental.
Alors quel rôle a le SIEL dans la protection de notre environnement?
En fin de compte, le ciel joue un rôle important dans l'approche, c'est-à-dire la décarbonation de notre société. C'est un des enjeux majeurs pour sortir des énergies fossiles. Et donc l'idée, c'est d'électrifier les usages avec de l'énergie décarbonée. Et donc le ciel joue un rôle important dans le maillage, notamment dans le développement du réseau public de distribution, mais aussi, par exemple, dans l'installation d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Le ciel a initié, depuis 2012... un programme aujourd'hui qui fait qu'on a un peu plus de 450 points de charge sur le département pour permettre aux véhicules de pouvoir se charger, pour pouvoir rouler au quotidien. Donc c'est des actions qui vont amener les citoyens de Touraine à pouvoir utiliser des services de proximité pour que leur trajet du quotidien ait moins d'impact carbone sur la société. Donc c'est un travail global. On fait un gros travail sur l'éclairage public. On a remplacé beaucoup d'ampoules à incandescence par des ampoules LED, nouvelle technologie avec beaucoup moins de consommation. Donc l'idée, c'est de travailler avec les collectivités sur la réduction de leur empreinte carbone sur les bâtiments publics. Donc en les accompagnant sur des actions de transition, soit sur les appareils de chauffage, soit sur l'isolation thermique et l'enveloppe des bâtiments. Donc on a un gros travail de participation auprès de ces collectivités, dans des programmes de financement qui nous permettent de leur apporter des moyens financiers pour permettre de mettre en œuvre les travaux et donc de changer réellement l'impact de ces équipements publics.
Alors, vous êtes élu à Chinon, vous êtes assez proche d'une centrale nucléaire. Du coup, quel impact sur disons, les politiques locales, cette centrale nucléaire? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée?
En fin de compte, l'idée, c'est pas d'ouvrir le débat sur les pour ou les anti-nucléaires. C'est qu'aujourd'hui, l'énergie nucléaire est de loin l'énergie la plus décarbonée de celle qui est produite. Aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, même les énergies hydroélectriques, c'est-à-dire les barrages, lorsqu'on construit le barrage et ses équipements, on a forcément une empreinte carbone. Le fait de couler du béton, de l'acier, produire l'acier pour faire les barrages, a évidemment un impact carbone. Et donc, si on le traduit globalement sur la durée de vie de l'équipement, et aussi, donc il y a un poids carbone. Aujourd'hui, on sait que le nucléaire est, de toutes les énergies produites, celle qui a le moins d'impact carbone. Alors, je ne dis pas qu'elle est propre, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est celle qui, aujourd'hui, est la plus décarbonée. Donc, l'enjeu de demain, c'est de faire en sorte que notre empreinte carbone sur l'environnement soit le moindre possible. Donc, sortir des énergies fossiles, tout ce qui est autour des carburants, du pétrole et du gaz fossile, et donc d'émerger vers d'autres actions. Donc, on travaille aussi sur la création d'unités de méthanisation pour créer du biométhane. Le biométhane qui a deux fonctions, c'est évidemment le chauffage du quotidien pour monsieur, madame, tout le monde, ou pour aussi les mobilités, puisqu'aujourd'hui, par exemple, les véhicules lourds sont nombreux à rouler au biogaz, et donc c'est aussi un outil important. Donc le ciel interagit dans tous ces domaines pour pouvoir accompagner ces émergences et faire en sorte que la trace carbone soit à côté. Donc le nucléaire est un des pans. Avec notre filiale Ener Centre Val-de-Loire, on a aussi produit des champs photovoltaïques. L'idée, c'est de permettre aussi d'avoir des productions délocalisées d'énergie qui permettent de compléter le mix énergétique en parallèle du nucléaire, de façon à trouver un mix équilibré et qui permette de satisfaire les usages de l'ensemble des citoyens.
Et alors, par curiosité, vous êtes à la fois élu de Chinon, vous êtes président du Ciel, et quel est votre domaine d'activité, quel est votre métier, votre formation?
Mon métier, je suis un entrepreneur dans l'industrie du bois. Voilà, c'est mon métier d'origine. Je suis menuisier ébéniste et j'ai eu pendant de nombreuses années une activité entrepreneuriale à l'île Bouchard avec une entreprise avec une quarantaine de personnes. Donc je suis issu du monde de l'industrie, voilà, en tant que chef d'entreprise. Et donc l'idée, c'est d'interagir sur l'ensemble de ces domaines pour permettre à la fois... Aujourd'hui, on parle de réindustrialisation de notre pays. L'enjeu de la réindustrialisation, c'est de le faire avec une empreinte carbone qui soit la plus basse possible et donc d'éviter que l'industrie soit synonyme d'aggravation des enjeux climatiques. Donc pour nous, c'est aussi un enjeu pour nous de créer les conditions optimales pour accueillir cette réindustrialisation dans les territoires et faire en sorte qu'elle ne pèse pas sur l'avenir des jeunes qui vont nous suivre.
Justement, quel message vous aimeriez adresser aux jeunes qui vous écoutent?
En fin de compte, je crois qu'il faut sortir l'écologie punitive. On est dans un prisme aujourd'hui où, en gros, on stigmatise les gens lorsqu'ils roulent avec leur vieux diesel ou il y a un truc. Sauf que, en termes de pouvoir d'achat ou d'accès aux services, lorsqu'on a des mobilités importantes, tout le monde ne peut pas rouler avec des véhicules électriques. Et je pense qu'aujourd'hui, le prisme sociétal qui est le plus dangereux, c'est d'opposer les publics. En gros, on est les bons, entre guillemets, qui seraient vertueux et ceux qui ne le sont pas. Je crois qu'il faut que l'écologie, la transition écologique et énergétique, elle s'opère plutôt par quelque chose qui va être le fait d'agréger les énergies parallèles, de faire en sorte que les actions des uns et des autres mises au bout des autres, les unes au bout des autres atteignent les objectifs sans pour autant stigmatiser et lutter les uns contre les autres. Donc c'est un enjeu important d'organisation de la société, mais aussi de motivation, d'entraînement. En fin de compte, certains considèrent que parce que le peuple français ne représente qu'un pour cent de la population mondiale, les efforts qu'on va faire vont être neutres au regard de l'atteinte parce que la Chine ou l'Inde vont polluer beaucoup plus. Mais si on adapte ce raisonnement à l'ensemble du dispositif, il n'a pas de sens. Chaque pierre que chacun peut apporter à l'édifice a son rôle, donc le syndicat d'énergie. Aujourd'hui, auprès d'élus locaux qui sont membres du syndicat, notre action est de les acculturer aussi, de leur donner les outils pour permettre d'avancer chacun de leur côté lorsqu'ils sont donneurs d'ordre et pour que dans leurs actions du quotidien, ils changent les choses à leur niveau.
Donc tout ça n'est pas qu'une affaire d'écolo ?
Pas du tout. Au contraire, l'écologie, elle se construit et ce n'est pas forcément les écologistes qui sont le mieux à même pour les construire. L'idée, c'est de construire des conditions équilibrées pour que chacun... Il faut sortir du dogme. Le dogme est souvent quelque chose qui est un frein à la mise en œuvre opérationnelle. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est une politique transpartisane, c'est-à-dire qui convainque les uns ou les autres. Et donc l'enjeu, c'est que chacun prenne sa part et qu'on arrive à faire en sorte, ensemble, de changer notre destinée, de lutter contre le réchauffement climatique et donc, du coup, contre les aléas climatiques qui vont venir nous toucher indirectement, mais inéluctablement à un moment donné.
Merci à vous.
Merci.
Bonjour Heidi Sevestre.
Bonjour.
Alors peut-être quelques mots sur votre communauté au Svalbard. Donc est-ce que vous voudriez nous parler de cette communauté à laquelle vous appartenez une partie de l'année ?
Avec grand plaisir. Alors le Svalbard, c'est un petit archipel qu'on trouve entre le nord de la Norvège et le pôle Nord. C'est un territoire qui est administré par la Norvège aujourd'hui. Et en fait, ce qui est assez formidable, c'est qu'on est le village le plus au nord du monde, là-haut, et qu'on a pratiquement 40-45 nationalités différentes au Svalbard. Donc on est vraiment un village très international dans un écosystème extraordinaire, dominé par les glaces, qui est en pleine transformation. On a à peu près 2 ou 3 bulles différentes dans cette société. On a la bulle des chercheurs, des étudiants de l'université, parce qu'on a une petite université là-haut. On a la bulle du tourisme, qui est en train de se développer très vite, le tourisme polaire. Et on a aussi une bulle qui est en train de se clôturer en quelque sorte, des mines de charbon. En fait, le Svalbard, à la base, si on a une ville là-haut, c'est parce qu'on a du charbon localement, du charbon de très bonne qualité apparemment. Et là, la Norvège vient de prendre la décision de fermer la dernière mine autour de la ville, la mine numéro 7. Et donc, on est dans un tout petit village, mais qui lui aussi est en train de faire une véritable transformation écologique.
Alors, qui habite dans ce village ? C'est des hommes, des femmes, des familles, des gens de quel âge ?
Alors, on a vraiment de tout, en fait, parce qu'on a besoin de tout, en fait, sur place. On a besoin de plombiers, on a besoin d'électriciens, on a besoin un petit peu de chercheurs, mais qui sont pas indispensables. Et en fait, on a vraiment une communauté très jeune. On a beaucoup de familles, parce que, clairement, si on veut faire venir là-haut des personnes compétentes sur l'énergie, des personnes compétentes sur la science, qui peuvent faire fonctionner une ville, des élus, ils viennent avec leur famille, heureusement. Et on a des conditions, vu que ça fait partie d'un pays scandinave, on a des conditions très confortables pour les familles. Tout est fait pour les jeunes générations. Et ce qui est très important, c'est que le sujet de la santé mentale là-haut est pris extrêmement au sérieux. On sait que pendant une moitié de l'année, il fait jour 24 heures sur 24. Pendant l'autre partie, il fait nuit 24 heures sur 24. On a un petit village où on peut imaginer qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc tout est fait pour que ce soit tourné vers les jeunes générations. Alors bien sûr qu'on a des étudiants à l'université, mais on a des âges plus jeunes. Et donc on fait tout pour qu'il y ait beaucoup d'activités, pour qu'ils aient aussi des espaces où ils peuvent se retrouver entre eux. Et ce qui n'est pas souvent le cas en fait dans les territoires arctiques, ou si on parle là plutôt de communautés autochtones, ce qui n'est pas du tout le cas au Svalbard, où malheureusement les jeunes générations souffrent beaucoup dans d'autres territoires. Je pense par exemple à la partie canadienne de l'Arctique ou aussi parfois au Groenland.
Alors quel est le rapport, disons, à la lumière et au son quand on habite au Svalbard ?
Alors ça, c'est une question qui est très belle. C'est vrai que la lumière, je pense que c'est un sujet duquel on parle peut-être tous les jours. Alors oui, bien sûr, je peux tomber dans l'évident, le fait que oui, toute une partie de l'année il fait nuit, toute une partie de l'année il fait jour 24 heures sur 24. Mais en fait, c'est bien plus que ça. On va parler de la palette des couleurs que l'on voit, du changement de lumière d'un jour à l'autre. Et c'est vraiment quelque chose qui nous rassemble tous là-bas. Je pense que notre point commun, c'est qu'on est tous hypnotisés par la nature autour de nous. Et on y va là-bas, d'abord pour la nature, Mais quand on quitte le Svalbard, ce qui m'est arrivé quelquefois malheureusement, ce qui nous manque, c'est la communauté. Donc cette communauté, oui, on n'a pas peur de parler de la lumière, et on n'a pas peur de parler du son aussi. Alors le son, ce qui peut être difficile au Svalbard, c'est que souvent il y a du vent. Il y a énormément de vent, le vent il est prédominant parce qu'on n'a pas d'arbres, on a peu d'obstacles finalement pour ces vents polaires. Et donc souvent on a du mal à entendre l'environnement autour de nous, mais quand le vent n'est pas là, alors là on nous parle énormément de ça. Oh, t'as entendu, on entendait tels oiseaux migrateurs qui sont en train d'arriver, t'as entendu là, le claquement des sabots des rennes quand ils marchent dans la neige. Et donc les sons sont rares mais très précieux. Et il y a un tout petit peu de chasse là-bas au Svalbard. Il y a aussi beaucoup d'observation de la faune. Et donc, on est tous très attentifs à ce qui se passe autour de nous parce que, oui, on n'a pas envie de déranger ces animaux et forcément de les impacter. Et par exemple, si je pense aux ours polaires, c'est vrai qu'ils sont assez nombreux là au Svalbard, ben, on est là-bas chez eux et on a besoin, nous, d'être très vigilants pour les embêter le moins possible.
Donc, c'est-à-dire qu'on n'entend pas rien.
On n'entend pas rien, mais souvent les oreilles sont très occupées par le vent. Et donc, il faut être extra vigilant pour vraiment entendre ce qui se passe autour de nous. Là, un son, moi, qui à chaque fois m'émerveille, c'est le sort de gloussement. On a l'impression qu'il rigole presque des petits lagopèdes, ces petites poules que l'on a. On en a dans les Alpes, mais on a aussi beaucoup au Svalbard. Ils restent toute l'année. Mais en fait, ils sont très difficiles à voir parce qu'ils se camouflent. Et la seule façon de savoir si on a des lagopèdes autour de nous, c'est de les entendre. Et donc, parfois, on se dit, mais c'est pas possible, j'ai les pierres autour de moi qui sont en train de rigoler. Ben non, en fait, c'est des lagopèdes qui sont tellement camouflés, ils sont impossibles à voir. Donc, les sons sont vraiment, évidemment, très importants là-haut.
Est-ce que la glace et la neige font aussi des bruits particuliers ?
Oui, moi, ce que j'aime beaucoup, évidemment, je suis complètement obsédée par les glaces en tant que glaciologue, mais une activité que j'aime énormément faire, c'est alors là, pas en étant à l'extérieur, mais en rentrant dans les glaciers. Donc on a la chance, c'est vraiment un privilège extraordinaire, de pouvoir rentrer à l'intérieur, vraiment dans le ventre, dans les entrailles des glaciers, pendant l'hiver, parce que pendant l'hiver, il n'y a pas d'eau qui circule dans les glaciers. Et l'eau, en fait, elle creuse des galeries pendant l'été, pendant le printemps. Et quand l'automne et l'hiver arrivent, l'eau s'est échappée et on peut se permettre de rentrer dans ces tunnels, ces canyons naturels. Et là, notamment, sur un des tout petits glaciers autour de la ville, on a un glacier à 2 km de la ville, donc c'est dingue, on a découvert, en fait, une cathédrale qui avait été creusée par les glaces. Mais un truc gigantesque, quoi. Là, on se trouve dans l'amphithéâtre du Palais des Congrès de Tours. C'est un petit prout par rapport à la cathédrale qu'il y a, je dis ça en rigolant, mais qui est magnifique, ce Palais des Congrès. Mais l'amphithéâtre dans lequel nous sommes, bah, c'est vrai, il faut réaliser que parfois, il y a des salles encore plus grandes qui se trouvent dans ces glaciers. Et j'y ai passé du temps beaucoup dans cette cathédrale. Notamment, il y a un chœur qui allait chanter dans cette cathédrale naturelle. C'était un moment très fort. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup faire avec mes étudiants ou avec des amis, c'est juste éteindre les lumières, fermer les yeux et écouter ce qui se passe dans cette cathédrale quand on ne bouge plus. Et en fait, on se rend compte qu'il y a toujours des sons. Alors, ce n'est pas Frozen, hein, c'est des sons qui sont très subtils, très délicats. Il n'y a pas Elsa qui construit des châteaux en donnant des tours de magie. Mais c'est vraiment des moments magiques parce qu'on est vraiment dans les entrailles de ce glacier. On a un peu l'impression d'entendre son cœur battre. Il se déplace tout doucement, ça craquelle par-ci, ça étincelle par-là. Et je trouve quelle chance quoi, de pouvoir tout d'un coup se couper du monde et se retrouver dans ces écosystèmes qui ont beaucoup de choses à nous apprendre.
Et alors, pendant votre conférence, vous avez évoqué 50 degrés en France. Alors pourquoi ce n'est pas une hypothèse absurde ?
Ouais, ce n'est pas une hypothèse absurde, malheureusement. Là, on sort, il n'y a pas si longtemps que ça, d'une canicule qui a quand même duré pas mal de temps, hein, quelques semaines, où on dépassait largement les 40 degrés déjà dans certaines régions en France. Et là, pourquoi on parle des 50 degrés ? Alors évidemment, on espère que ça n'arrivera pas, mais là, toutes les projections nous montrent qu'on y va tout droit. En fait, la France a malheureusement pas trop de bol. On est un peu au carrefour de ce qui se passe avec une Méditerranée qui se réchauffe très vite, l'Atlantique qui voit ses températures augmenter aussi, et notre proximité de l'Arctique. Et donc, on est dans un concours de circonstances qui font que les températures en France augmentent, ou en Europe, hein, augmentent à peu près 2 fois la moyenne mondiale. Et donc aujourd'hui, oui, on réfléchit beaucoup à ces canicules et à l'impact que ça va avoir sur l'humain et sur nos écosystèmes. Et on sait que voilà, des salles de classe où il fait déjà 35-36 aujourd'hui, c'est quand même très compliqué de se concentrer. Et il y a une expérience dont je voudrais vous parler parce que ça m'a beaucoup marqué. C'est une expérience du Human Adaptation Institute qui est basé à Marseille, donc qui est bien placé pour comprendre ce que c'est que des canicules, même s'il y a de l'air qui souffle quand même au bord de la mer. Et ils viennent de lancer, notamment leur directeur Christian Clos vient de lancer une expérience immersive qui s'appelle Climate Sense. Et en fait, c'est une chambre climatique à 50 degrés dans laquelle ils nous enferment, alors à notre bonne volonté, pendant une demi-heure. Et bien, une demi-heure à 50 degrés, on a l'impression que c'est largement faisable. Moi, j'étais au bout de ma vie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils scénarisent ces 30 minutes comme une journée de travail ou une journée d'études. On part au boulot, on marche 10 minutes à pied, 10 minutes à pied. À 50 degrés, c'est déjà horrible, on est en nage. Ensuite, il nous fait toucher des objets du quotidien. Je ne veux pas vous spoiler toute l'expérience, mais des objets du quotidien. Bah déjà, le téléphone à 50 degrés, il ne marche plus depuis quelques minutes. Le téléphone, l'ordinateur, les lunettes, elles sont bouillantes. La montre qui est en métal, on a du mal à la mettre autour de son poignet. Bref. Et ensuite, ce qui est génial sur cette expérience, c'est qu'il nous fait utiliser notre cerveau à 50 degrés. Et on fait comme si on était dans une réunion ou dans un cours où on répond à un quiz de logique. Et ben moi, le quiz de logique à 50 degrés, la première question, je l'ai relue 30 fois et j'avais du mal à comprendre où il voulait en venir. Alors que c'était en temps normal des questions qu'on arrive tout à fait à résoudre. Et donc, c'est fascinant. En fait, on a besoin de le ressentir dans nos tripes, ces 50 degrés. C'est pas juste sur le papier. Quand on voit ce que c'est que 50 degrés, on a du mal à voir ce qui est, comment on va pouvoir s'adapter à tout ça, mais il va falloir s'adapter à tout ça. Donc, c'est ce genre d'expérience, c'est des game changers, quoi, pour motiver le passage à l'action, parce que personne les veut, les 50 degrés, hein, après les 30 minutes passées dedans. Mais clairement, aujourd'hui, mettons-nous autour de la table toutes ces générations, tous ces secteurs de notre société, pour vraiment se dire comment on va arriver à gérer tout ça, mais surtout comment on le repousse le plus loin possible en attaquant le problème du changement climatique à sa source.
Sur la source de ce problème, vous avez évoqué pendant votre conférence justement les fausses bonnes idées, hein, le technosolutionnisme, là, disons les super fails, les fausses bonnes idées.
les super fails.
Si vous voudriez nous en dire plus.
Ouais, alors c'est un sujet qu'on a vu venir petit à petit, mais là qui a vraiment pris énormément de place, le sujet de cette géo-ingénierie. Donc la définition, c'est toutes les techniques qui visent à manipuler le climat à grande échelle pour diminuer les conséquences négatives sur l'humain. Voilà, chaque mot a vraiment une importance considérable. Et en fait, quand on parle de géo-ingénierie, là on a un papier qui vient de sortir nous là-dessus, sur la géo-ingénierie dans les régions polaires. On a évoqué les plus extrêmes, mais qui sont les plus populaires aujourd'hui, alors qu'ils ne sont pas encore déployés, mais qui sont en train de prendre pas mal de traction. C'est par exemple bloquer une partie du rayonnement solaire. Alors aujourd'hui, on peut tout à fait le faire. Hein. Comment on bloque le rayonnement solaire? Bah, avec des roquettes ou avec des avions pendant plusieurs, 24 heures sur 24, pendant plusieurs années, qui vont répartir des aérosols dans la stratosphère, donc qui font un peu un effet écran, comme un volcan en fait, hein, qui font un effet écran. Aujourd'hui, les conséquences, on les connaît par cœur. Au-delà peut-être de diminuer les températures, les conséquences, c'est surtout que ça risque de créer des pluies acides. En fait, on jette des polluants dans la stratosphère. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que c'est des polluants qu'on va recracher dans ces écosystèmes-là. C'est plus de pluies acides, ça perturbe le cycle de l'eau tout entier, ça perturbe la mousson en Asie, ça crée des déséquilibres au niveau météorologique. Une autre piste qui est étudiée en ce moment, c'est pour la banquise arctique notamment. La banquise est très importante, elle nous permet de stabiliser le climat global de la planète. On est en train de la perdre, clairement. Et donc aujourd'hui, il y a des startups qui se sont dit, bah, c'est pas très compliqué, on va arroser en quelque sorte la banquise, on va installer des millions de pompes sur cette banquise, alors, qui est un écosystème, je le dis, hein, très très sensible, très fragile à la moindre pollution, très sensible aux activités humaines, mais voilà, déployons des millions de pompes sur cette banquise pour pomper l'eau de l'océan glacial arctique, qui est très salée, et on la recroche sur la banquise. Les tests préliminaires qui ont été menés nous montrent que ça rajoute pour l'instant 2 jours de vie sur l'année à la banquise, donc compliqué, hein, j'ai envie de dire, et très compliqué sur la source d'énergie que ces pompes vont utiliser, parce que si on les déploie tout de suite, bah, y a pas d'énergie renouvelable qui est à l'échelle sur ces territoires-là. Quid du bruit de ces pompes? Quid des vibrations que ça va créer sur cet écosystème-là, qui est un écosystème vivant? La banquise, c'est pas juste un t-shirt blanc. C'est lié à des équilibres bio-géochimiques qui sont très importants. Il y a de la faune, il y a de la flore autour de cette banquise. Donc, bref. Dans mon article qui vient de sortir dans le journal Frontiers, on a examiné 5 de ces techniques qui ont le vent en poupe dans l'article. Et on a démontré, basé sur la science, hein, sur toute une littérature qui est déjà publiée, qu'aucune de ces techniques, pour l'instant, nous permettra de préserver ces écosystèmes-là. Et que, en fait, c'est une bonne nouvelle, cet article, parce que ça nous montre que, en fait, les meilleures solutions, bah, c'est de décarboner. C'est celles qui existent déjà. C'est d'attaquer le problème à la source. Donc, tout ce qui nous permet d'utiliser bah, moins d'énergie fossile, tout ce qui nous permet de diminuer les gaz à effet de serre, c'est bon pour ces écosystèmes-là et c'est bon pour nous aussi. Donc, continuons à flécher l'action dans cette direction-là.
Voilà, ça pourrait aussi sembler être du bon sens, après tout, mais cela dit, en face, oui. Vous pouvez vous heurter à certains élus qui, eux, voilà de bonnes solutions, quelque chose qui peut aussi être populaire, voilà, qui peut donner disons, une aura de modernité, et voilà, des élus qui ne sont pas forcément sur le même temps que les chercheurs, sur le même temps que les scientifiques, qui ont besoin de résultats, disons, entre guillemets, à court terme, dans des enjeux électoraux. Et du coup, comment, en tant que chercheur, vous Bien arrivez sûr. À dialoguer ou pas avec ces élus?
Oui, cette question, elle est essentielle. En fait, on se rend compte des raisons pour lesquelles la géo-ingénierie elle va en poupe aujourd'hui. On a l'impression que la décarbonation ne se passe pas assez vite, et c'est vrai. On n'a pas envie de changer le système, hein, parce que ça demande des efforts. Quand on est politique, on ne se fait pas élire hein, sur le fait qu'on va demander à tout le monde de faire des efforts. Et aussi les politiques, je parle surtout au niveau national, hein, ont vraiment besoin d'avoir des résultats à très courte échelle. Et donc c'est là où la géo-ingénierie, on a l'impression que c'est sur le papier trop bien. En fait, nous, en tant que chercheurs, on se rend compte que les conséquences négatives de la géo-ingénierie, sur celles que j'évoque du papier qu'on vient de publier, les conséquences négatives sont largement supérieures aux conséquences positives. Après, évidemment qu'on a besoin de technologie, évidemment qu'on a besoin de rendre nos systèmes d'énergie beaucoup plus efficients, évidemment on a besoin de sobriété énergétique, évidemment on a besoin de tout ça. On n'est pas du tout contre des solutions, on n'est pas du tout contre certaines parties de la géo-ingénierie qui sont par exemple de protéger des écosystèmes, de reforester, ça on n'est pas du tout contre. On risque d'avoir besoin de capter du CO2, même si pour l'instant, niveau captage du CO2 technologique est beaucoup trop gourmand en énergie, beaucoup trop cher. En fait, n'oublions pas qu'on a des écosystèmes qui captent nos émissions de gaz à effet de serre et qui le font très bien. Donc, protégeons nos zones humides, continuons à préserver nos forêts, aidons nos sols. Aujourd'hui, la captation du CO2 naturel, elle marche très bien, mais encore faut-il l'aider. Donc oui, au niveau des élus, des politiques, on a un vrai devoir, nous, en tant que scientifiques, de partager ces résultats de notre étude, de notre contrôle hein, que l'on fait sur cette certaine partie de la géo-ingénierie. Et donc, on ne demande que ça, nous, ces dialogues, pour aider les élus à tirer les choses au clair. En fait, quand on est élu, on a le temps pour pas grand-chose. On a des missions qui sont très importantes, très compliquées. Et bien, utilisez-nous, les scientifiques, pour vous donner, c'est pas notre avis perso, c'est vraiment un avis documenté, prouvé par la science, sur quelles sont les meilleures actions à mettre en place. Après, les meilleurs experts des territoires, ce ne sont pas nous, mais si on peut amener des connaissances peut-être un petit peu plus élargies sur ces territoires, sur ce qui se passe, eh ben, ça fait partie de nos devoirs, donc allons-y, on est à votre dispo.
À quoi servent les médias là-dedans alors ?
Ben, les médias ont vraiment un rôle clé quand on pense à des médias notamment indépendants pour nous aider à partager cette parole scientifique plutôt que de partager des opinions, de donner la parole aux personnes, alors je ne parle pas que des scientifiques, aux personnes qu'on entend trop rarement sur des médias traditionnels qui ne sont peut-être pas indépendants. Aujourd'hui, évidemment que nous aussi, les scientifiques, on fait face à la désinformation, on fait face aux fake news, on fait face à des algorithmes qu'on a vraiment du mal à gérer, qui préfèrent le débat, qui préfèrent bah, qu'il y ait une partie de la population qui pense que la Terre est plate et l'autre partie de la population qui pense que la Terre est ronde, et ça crée du débat. Mais en fait, non, la science est très claire sur cette question-là. Donc aujourd'hui, oui, on a vraiment besoin de beaucoup travailler avec les médias. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a de belles initiatives comme Expertise Climat, Quota Climat, qui sont mises en place pour surveiller les médias traditionnels, les encourager à aller dans la bonne direction. Et en tout cas, on voit toute une nouvelle génération de scientifiques, de journalistes, soit qui lancent leurs propres médias, soit qui arrivent à travailler de plus en plus avec les scientifiques et de leur donner de la place qui est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, si on ne comprend pas ce qui se passe, eh ben, on ne changera pas. Si on ne comprend pas ce qui se passe, on ne prendra pas les bonnes décisions. Et on sait très bien qu'une grande partie des médias traditionnels ont à cœur de bloquer le système, de garder le système tel qu'il est, sachant que le système tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas continuer et ne nous donne pas la meilleure chance possible pour atténuer le changement climatique et s'adapter par rapport à ce qui se passe. Donc nous, on a vraiment très très à cœur, en tout cas, de travailler avec ces nouveaux médias, des médias indépendants qui sont vraiment des alliés très très précieux à nos côtés pour continuer à faire notre devoir, c'est-à-dire sensibiliser, partager cette parole scientifique, et partager pas que la parole scientifique, la parole des personnes du terrain qui ont les mains dans le cambouis, qui nous permettent de rendre cette transition possible, les élus, les agents, les citoyennes et citoyens, les jeunes générations. Donc permettez-nous, les médias, de continuer à créer ce dialogue, ces espaces pour qu'on puisse avancer ensemble. Et nous, clairement, on ne demande que ça, les scientifiques.
Merci Heidi Sevest. Peut-être un mot sur votre future expédition, qui là sera avec un grand cerf-volant, je crois.
Oui, exactement. Dans quelques semaines, je pars en Antarctique sur une idée un peu folle, mais qui a beaucoup de sens, de l'aventurier français qui s'appelle Mathieu Torder. Donc, je suis très heureuse de le rejoindre sur ce projet qui s'appelle Under Antarctica, sous l'Antarctique, parce qu'on va regarder des glaces qui sont au cœur de cette calotte polaire. Notre idée, c'est de montrer qu'on peut décarboner la science polaire. Nous aussi, on a beaucoup d'efforts à faire, les scientifiques, et notamment pour ces campagnes de prise de mesures, de prise de data sur ces régions qui sont très éloignées. Et donc, pour ce faire, on a 4000 km de traversée de l'Antarctique à faire, et on va le faire d'une façon assez originale en utilisant des kites, donc des voiles de différentes tailles qui vont nous tracter, donc tirer par les vents. Sur nos pieds, on sera en ski. Et derrière nous, on va tirer tout ce qu'il nous faut pour survivre pendant 3 mois sur cette traversée. De quoi camper, de quoi manger, de quoi dormir, mais de quoi faire beaucoup, beaucoup de science. Et en tout cas, je lance un petit appel, j'en profite, parce qu'on a un gros programme éducatif autour de cette expédition. Entre la fin octobre et la fin janvier 2026, donc fin octobre 2025, fin janvier 2026, on souhaite pouvoir dialoguer surtout avec les jeunes générations. Donc à partir de 10 ans, mais on sait que si on parle à des personnes de 10 ans, c'est accessible au plus grand nombre, même aux parents. Mais on veut vraiment montrer ce qui se passe en Antarctique, parler de cette région formidable, mais aussi du métier de scientifique, et surtout donner de l'espoir, montrer qu'il y a plein de choses qui sont en train de se faire, encore une fois, peut-être pas assez vite, mais qui ont bien besoin d'encouragement. Donc si on peut mettre des coups de projecteur sur des initiatives que l'on voit en français au-delà, on ne va pas hésiter à le faire. Et en tout cas, ce programme éducatif, il est gratuit, il suffira de s'inscrire. On va l'annoncer très bientôt, courant septembre. Donc on compte sur vous pour nous rejoindre et nous poser tout un tas de questions sur ce qu'on fait là-bas.
Et on se rend sur underantarctica.com.
C'est ça, exactement. À très vite.
Merci.
Merci.
Il semblerait que nous n'ayons plus le temps de nous demander si l'écologie est de gauche ou de droite, si nous aurons trop chaud en été, si la sobriété énergétique est une option et si elle nous ferait retourner à l'âge de pierre. Alors, avant de céder au désespoir ou à l'achat d'un climatiseur, je cite Heidi Sevestre. Si nous combinons plutôt nos ressources limitées pour traiter la cause plutôt que les symptômes, nous avons de bonnes chances d'atteindre le zéro net et de restaurer la santé de notre climat. Les scientifiques, les élus locaux ont un rôle majeur à jouer, et peut-être aussi, qui sait, les journalistes. Je vous propose à présent d'écouter 2 titres inspirés par le Svalbard, Svalbard de Ole Edvard Antonsen et Svalbard de Yuko Takei. Cette émission est à retrouver en podcast sur notre site radiocampustour.com.